Voilà, mes auditeurs, chers internautes, merci à vous, merci d'être à l'écoute de la radio maternelle, Radio Maria. Merci beaucoup de nous choisir, de nous écouter, de nous suivre sur notre site web, le www.radiomaria.cd, comme disait un penseur. Depuis la nuit des temps, l'humanité avance, bâtit, conquiert et laisse derrière elle les traces de son passage. Mais que savons-nous vraiment de ces événements qui ont forgé notre monde? Bienvenue encore dans cette émission Histoire avec le professeur Macaire Manimba. C'est lui l'historien, il est père. Vous posez beaucoup de questions, l'interactivité, oui, apprenez. Apprenons d'abord. Au moment opportun, nous allons vous proposer l'interactivité ou les interactivités pour vous faire participer dans l'émission Histoire. Mais cela n'empêche de nous envoyer vos messages hein, à notre numéro 081 99 66 098. C'est notre numéro de messages. Envoyez-nous vos messages. Nous allons vous lire au moment opportun. Alors, chaque samedi, nous vous amenons au cœur d'un moment clé. D'un lieu où nous pouvons réfléchir sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire de l'Afrique. D'abord, laissez-moi saluer les pères. Père, bonjour.
Bonjour, bonjour, Bob.
Voilà, père. Nous allons aborder un sujet très capital, très important. C'est sur les reculs démocratiques en Afrique. C'est ça les thèmes de notre rencontre, de cette émission. Histoire que beaucoup souhaitent suivre chaque samedi. Alors, les reculs de la démocratie en Afrique, pourriez-vous nous définir ou nous donner une explication sur la démocratie et cette régression démocratique en Afrique?
Et en termes simples, la démocratie peut être définie comme un système de gouvernement dans lequel le pouvoir politique appartient au peuple. Mais ça, c'est théorique. Pratiquement, cela signifie que les citoyens ont le droit de participer aux décisions politiques, notamment en élisant de représentants. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative ou démocratie parlementaire, ou en votant directement sur les lois et certaines questions importantes. Ça, c'est la démocratie directe pratiquée dans des pays comme la Suisse. Parmi les caractéristiques clés de ce système de gouvernement, il y a la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le pouvoir vient du peuple qui choisit ses dirigeants par des élections libres et transparentes. Il y a aussi l'état des droits comme caractéristique, en ce sens que tout le monde est soumis à la loi, y compris les dirigeants. Autre caractéristique, la séparation de pouvoir, en ce sens que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont séparés pour éviter justement les abus de pouvoir. Il y a trois autres caractéristiques que je vais très rapidement évoquer. Les libertés fondamentales, pour dire que le citoyen dans une démocratie jouissent des libertés essentielles comme la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté des réunions et la liberté des cultes. Il y a une caractéristique tout aussi importante qu'est le pluralisme politique. Parce que en démocratie, il existe plusieurs partis politiques et opinions. L'opposition ici a le droit d'exister et de s'exprimer librement. Et dernière caractéristique que je pourrais évoquer pour mieux expliciter ces systèmes de gouvernement, c'est la participation citoyenne. Parce que les citoyens, dans une démocratie, doivent participer à la vie politique, pas seulement en votant, mais aussi par le débat public, les manifestations pacifiques, les pétitions, etc. En définitive, je dois dire que la démocratie comme forme de gouvernement veut que le pouvoir soit exercé par et pour le peuple dans un cadre qui respecte véritablement les libertés fondamentales et l'égalité. Quant au recul démocratique, parfois aussi appelé déclin, régression démocratique, il désigne une situation où les principes et les pratiques de la démocratie s'affaiblissent, regressent ou sont tout simplement remis en cause dans un pays. Concrètement, cela signifie ceci, il y a moins de liberté, les élections sont truquées avec des résultats manipulés, concertation du pouvoir, tripatouillage constitutionnel, c'est-à-dire on manipule la constitution pour s'éterniser au pouvoir, mais aussi en supprimant la limitation du nombre de mandats. Et ça, c'est une maladie pour l'Afrique, et ça fait que, généralement, les Africains ne puissent vraiment pas construire, bâtir une démocratie digne de ce nom. Mais lorsqu'il y a recul démocratique, on constate aussi que les libertés reculent, hein, que les élections deviennent une façade et que le pouvoir n'est plus exercé au nom du peuple, mais contre le peuple. En Afrique, cela fait souvent référence à l'érosion progressive des valeurs, principes et normes démocratiques, et cela est observé un peu partout sur les continents, à l'exception peut-être du Botswana, du Ghana, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Zambie et dans une certaine mesure du Sénégal.
Avant d'aller plus loin, car nous sommes dans un océan profond, qui est l'histoire, on ne peut pas s'hasarder ou nous hasarder à nager seul sans le guide. Le guide, c'est l'historien dont vous êtes. Serait-il mieux de proposer aux auditeurs et internautes une vue d'ensemble des évolutions démocratiques en Afrique depuis les années des indépendances, afin de détailler et de contextualiser les débats sur le recul démocratique qu'on observe sur notre continent?
Merci beaucoup, Bob. Vous voyez, au moment de leurs indépendances, la plupart des pays africains adoptent des constitutions démocratiques libérales et des systèmes de gouvernance politique semblables à ceux qui prévalent alors dans leurs pays colonisateurs respectifs. Moins d'une décennie après, la quasi-totalité de ces pays africains renonce à ces systèmes, mettant en avant la nécessité de contenir les tendances séparatistes sévissant au sein de nouvelles nations souvent clivées selon des critères ethnico-régionaux et culturels. Est également évoqué l'impératif de préserver un semblant de paix politique et sociale requise dans la quête de l'objectif du développement socio-économique rapide. Dans ce contexte, les constitutions vont être amendées ou remplacées généralement pour renforcer le pouvoir du président de la République au détriment, bien sûr, des systèmes judiciaires et législatifs, et ainsi que des organismes d'État indépendants. On a vécu cela dans notre pays, le Congo, avec Mobutu, qui en 67 a obligé cette modification de la Constitution pour, si vous voulez, pour tenir le règne du pouvoir, mais surtout pour tout contrôler. Et à partir de là, on a vu chez nous ici que le Parlement était devenu véritablement une caisse de résonance. Alors, dans ces pays, ce qui se passe aussi, parce que là, on est en train de refaire cette histoire de l'évolution démocratique en Afrique, il y a aussi le fait que presque tout le pays d'Afrique cède à une forme ou à une autre de gouvernance autocratique dans laquelle les libertés de médias, d'expression et d'association sont restreintes, les partis d'opposition sont éliminés ou interdits, et les opposants et dissidents politiques sont souvent réprimés ou voient leurs biens saisis. Les élections ne sont plus que de vastes mascarades conçues pour permettre au président en exercice et à son parti de s'accrocher au pouvoir. Les changements gouvernementaux s'opèrent désormais sous le bruit des balles dans presque tous les pays africains, dont beaucoup commencent à ressembler à des États garnisons défendus par des milices armées. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, les pays d'Afrique sont en majorité dirigés par des régimes autocratiques à parti unique. Chez nous, on a eu le MPR et dans beaucoup d'autres pays africains, il y a eu ces exemples de régimes autocratiques à parti unique, sans parti, contrôlés par la junte ou encore sous le joug d'un tyran. En Afrique de l'Ouest, seul le Sénégal et dans une certaine mesure la Gambie sont dotés ou étaient dotés des gouvernements affichant des intentions démocratiques avec le maintien des systèmes électoraux ouverts, même s'ils étaient dominés par des partis uniques depuis leur indépendance.
Voilà. Nous restons sur vos lèvres. Vous parlez de partis ou des partis uniques. Quels furent les résultats de la gestion des pays africains par des régimes autoritaires à partis uniques?
De façon générale, les systèmes et pouvoirs autoritaires d'Afrique subsaharienne ont lamentablement échoué à garantir à leurs concitoyens le développement économique, la stabilité politique et l'unité nationale nécessaire. Le triste bilan dressé en 1989 est le suivant. Pratiquement aucun pays africain n'a réalisé le rêve formulé à l'époque de l'indépendance d'une prospérité matérielle assortie d'une stabilité politique, si ce n'est éventuellement la Côte d'Ivoire, alors sous l'égide du président Félix Houphouët-Boigny et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Bien au contraire, ces nations contrôlées par des dictateurs, disons comme ça, ces nations vont s'enliser dans le séisme politique, les troubles civils, les coups d'État à répétition et les insurrections militaires. Tous les pays, ou presque, vont être traversés par des convulsions politiques entraînées par les difficultés économiques et la corruption extrême sous des régimes militaires autocratiques. Et cela a entraîné inévitablement des troubles sociopolitiques. Des guerres civiles ont éclaté au Libéria en 1989 et en Sierra Leone en 1991. Après quasiment trois décennies de prospérité économique, la Côte d'Ivoire aussi est frappée par le déclin et les conflits violents dans les années 90. Au même moment, la réforme économique néolibérale au Ghana, mise en place par le gouvernement de Jerry John Rawlings, s'essouffle rapidement. Ainsi, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, une vague de libéralisation politique et de transition démocratique, cette vague va déferler sur le continent et à partir de ces moments, beaucoup d'Africains croient véritablement que l'unique voie pour le salut du continent, c'est la démocratie.
Mais quels pays ont été concernés par ces avancées démocratiques, Père?
Des avancées démocratiques spectaculaires naissent au Bénin, où des étudiants, professeurs d'université et fonctionnaires, rejoints par plusieurs groupes religieux, organisent des manifestations de rue forçant le président Mathieu Kérékou a accepté d'organiser une conférence nationale souveraine en février 1990. Cette conférence, présidée par le prélat catholique Monseigneur Isidore de Souza et rediffusée en direct, mène à l'avènement d'un nouvel ordre constitutionnel démocratique libéral au Bénin. Et les événements béninois vont insuffler une nouvelle dynamique dans toute l'Afrique, notamment dans les deux Congo. Ici chez nous, la conférence nationale souveraine a été menée par un prélat catholique, Monseigneur Monsengo, des mémoires. Et on sait que malgré les difficultés des rapports entre la conférence nationale souveraine et le régime de l'époque, les Congolais sont quand même parvenus à rédiger une constitution qui, si elle était mise en application, allait peut-être sortir le Congo du bourbier. Mais cela n'a pas été le cas, malheureusement. Entre 1990 et 1993, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo organisent des conventions sur le modèle de la Conférence nationale souveraine, ouvrant la voie pour la majorité d'entre eux à des nouvelles constitutions démocratiques libérales ou à l'amendement des constitutions existantes. Des tendances à la libéralisation politique similaires sont observées dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et au milieu des années 1990, la tendance à l'œuvre en Afrique subsaharienne est résolument favorable à l'institutionnalisation d'une démocratie multipartite, fonctionnant notamment par le biais d'élections multipartites. Au cours de la décennie suivante, c'est-à-dire à partir de l'année 2000, les élections pluralistes deviennent la norme dans toute la région africaine, certaines s'avérant libres et équitables, favorisant notamment les alternances au Bénin, au Cap-Vert, au Ghana, au Nigeria et en Sierra Leone, érigeant de facto l'Afrique de l'Ouest surtout, particulièrement, en région modèle en matière de transition démocratique sur le continent. Et à partir, justement, pour revenir à la décennie 90, les pays d'Afrique se dotent peu à peu des constitutions plus ou moins démocratiques. Un grand nombre de ces constitutions prévoient indéniablement un certain degré de séparation entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Alors que la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, a connu des présidents à vie, de jure, mais l'Afrique centrale surtout, hein, avec de présidents qui aujourd'hui accomplissent 40 ans, 30 ans de pouvoir. Et voilà. Alors qu'il y a cette anti-valeur, ou tout du moins de facto, au cours des trois premières décennies d'indépendance, l'imposition d'un nombre limité de mandats pour la présidence est peut-être le critère le mieux à même de mesurer le degré de constitutionnalité de la nouvelle ère démocratique. On a pu vérifier cela au Sénégal, au Ghana et au Botswana.
Très bien. Pour ceux qui nous captent à ce net moment, nous parlons de l'histoire. C'est une mission histoire, les reculs démocratiques en Afrique. C'est avec l'historien, le père Makler Manimba. Professeur, malgré ces avancées, on a constaté un recul manifeste de la démocratie dans plusieurs pays africains. Que s'est-il passé?
Il faut dire que dans la plupart des pays africains, des politiques multipartites ont été source de tensions, parce que les Africains n'ont pas pu gérer, ces nouveaux paysages politiques. Parce qu'on a été habitué à l'autoritarisme avec un dictateur qui commandait tout au Congo, au Zaïre des Mobutu. On a entendu celui-ci dire par exemple que avec le multipartisme, lui serait au-dessus de la mêlée, comme pour dire qu'il continuerait à contrôler les jeux démocratiques. Et donc en Afrique, il y a eu des problèmes, pas seulement des politiques multipartites, mais aussi des élections truquées qui ont favorisé l'émergence des conflits sectaires acharnés, des coups d'État militaires et de la guerre civile qui ont réduit à néant trois décennies d'entente interethnique et de prospérité. Il faut également dire qu'en dépit de l'institution d'une règle constitutionnelle formelle, le pouvoir politique, économique et symbolique en Afrique a continué d'être concentré au sein de l'exécutif, entre les mains d'un seul individu, dans le parti au pouvoir, souvent celui du président. La discrétion notable dans l'exercice de l'autorité dont font preuve le président et les personnes qu'il nomme revient dans le fait à nier la voix du peuple exprimée par les élections, les médias, papier et électronique, voire les actions en justice. Mais surtout, l'absence de volonté des élites politiques, en particulier le président africain, de renoncer au contrôle autoritaire, fait obstacle aux avancées démocratiques dans la plupart des pays. Les dirigeants africains tentent ainsi à faire preuve d'hostilité envers les réformes qui pourraient limiter leur pouvoir. Il faut finalement dire que dans beaucoup de pays africains, les manipulations du processus électoral par des dirigeants ivres de leur pouvoir ont souvent impliqué la suppression de fichiers d'électeurs par l'intermédiaire des lois restrictives, l'inscription des noms fantômes dans les listes électorales et l'intimidation des électeurs. Les bulletins falsifiés, le bourrage des urnes, les erreurs volontaires dans le décompte des votes ou l'annonce des résultats, ou encore le piratage des systèmes de transmission des résultats de scrutin constituent d'autres formes de fraude électorale déployées en vue d'affaiblir la démocratie. Et je crois que si cela continue, l'Afrique ne pourra vraiment pas s'en sortir de cette crise de confiance de citoyens en la démocratie.
Est-ce que je pose cette question, peut-on dire qu'en Afrique la culture politique reste autoritaire?
Tout à fait, tout à fait. La culture politique autoritaire est toujours présente en Afrique parce que cette culture est fondée sur le statu quo précolonial, colonial et postcolonial. Cela constitue, si vous voulez, un facteur entravant la démocratisation en Afrique. Les carences manifestes en matière de citoyenneté démocratique et de la culture civique suggèrent un respect fragile des valeurs fondatrices de la démocratie, telles que la tolérance et le respect des droits de minorité. Ces vestiges de la stratégie consistant à diviser pour mieux régner, prévalant sous les joues coloniales, continue de gangréner aujourd'hui encore la politique démocratique dans la plupart des pays africains, avec des effets dévastateurs un peu partout. Dans ces contextes, la démocratisation n'est pas réellement parvenue à refréner les tendances kleptocratiques des leaders politiques souvent corrompus et de leur entourage dans la plupart de nos États africains. Et un autre facteur entravant la démocratisation en Afrique, ce sont les coups portés à la démocratie en Occident par des partis extrémistes de droite, aux États-Unis en particulier. Et ces partis extrémistes ont eu une influence aussi sur l'Afrique. Et là, on a vu des conséquences dramatiques sur la capacité de ces pays occidentaux à défendre l'idéal démocratique en Afrique. Parce que les Africains, souvent, ils comptent sur les Occidentaux à chaque fois qu'il y a une crise. Mais là, de plus en plus, on voit qu'il n'y a plus personne pour défendre la démocratie, même du côté occidental. Par exemple, l'attaque menée par le président Donald Trump et ses acolytes contre les institutions, processus et valeurs démocratiques a été du pain béni pour les dirigeants africains et leurs alliés enclins à l'autoritarisme et aux formes de gouvernance antidémocratique. Et ça, c'est préoccupant. Et c'est pourquoi le peuple africain doit s'élever pour dire non à toute dérive autoritaire.
Les technologies numériques constituent-elles un risque pour la démocratie? Parce que maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. La paix et le développement en Afrique. Donc, on peut dire que ces technologies numériques constituent-elles un risque pour cette démocratie?
Les technologies numériques ont sans aucun doute été synonymes d'avantages considérables pour le programme de la gouvernance démocratique en Afrique dans son ensemble. Elles ont largement accompagné les efforts des citoyens pour exiger de leur gouvernement une obligation de transparence dans la gestion de la chose publique. Cela a notamment été le cas lors des nombreuses mobilisations de masse, manifestations de rue au Nigeria, au Kenya et même ici chez nous au Congo. Mais comme ailleurs dans le monde, les technologies numériques présentent également de réelles menaces pour la démocratie, la paix et le développement. Car si les progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information ont permis aux populations africaines d'accéder à l'information et de la consulter plus facilement, ces mêmes technologies, je parle de technologies numériques, ont également renforcé les possibilités de propager la désinformation, d'alimenter la polarisation, la haine et de manipuler les citoyens au travers de la création et de la dissémination de fake news. Les plateformes cryptées peer-to-peer telles que WhatsApp et autres réseaux sociaux ont souvent été utilisées pour répandre des rumeurs et attiser la violence, la haine et certaines désinformations qui sont diffusées auprès des communautés ciblées. Et on le fait intentionnellement afin de provoquer des conflits et de tenter d'influer sur les élections. On le voit hein, souvent quand il y a des campagnes électorales, on voit des dirigeants qui mentent clairement, mais qui se servent de mensonges sur la place publique et souvent pour attiser la haine, créer la division au sein de populations. Et c'est là, et bien dommage.
Dans les contextes africains du recul démocratique, quel rôle peut jouer la population? Y a-t-il une forme de résignation ou de contestation?
Les populations africaines, voyez-vous, ne sont pas toujours résignées. Au contraire, on observe des mouvements citoyens très actifs dans plusieurs pays comme Yanamar au Sénégal ou Ballet Citoyen au Burkina Faso, Mouvement Filimbi en République démocratique du Congo avec ses actions pro-démocratie et ses protestations pacifiques. On se rappelle que le mouvement Filimbi avait beaucoup lutté entre 2011 et 2018 pour que la constitution ne soit pas touchée par Monsieur Joseph Kabila. Et on peut se demander si aujourd'hui ces mouvements n'avaient pas raison. Cependant, ces mouvements sont souvent réprimés et les libertés d'expression et des réunions sont limitées, ce qui rend la mobilisation difficile. N'oublions pas non plus que le recul démocratique advient dans un contexte où les aspirations populaires en faveur de la démocratie, de la gouvernance responsable et de la liberté sont généralement élevées et persistantes au sein des populations africaines, parce que les Africains aspirent au développement. Et je crois que on peut pas aujourd'hui exclure la démocratie pour dire nous voulons investir on peut pas aujourd'hui freiner l'élan démocratique pour dire que on voudrait surtout investir dans le développement, parce que développement et démocratie ne s'opposent pas. Au contraire, la démocratie est une voie idéale pour permettre un développement intégral, pour reprendre le terme de l'Église catholique, pour dire développement intégral de l'homme et qu'est-ce que j'ai dit de tout l'homme. Pour dire que le développement en Afrique est important, mais ce développement doit mettre au centre toutes les préoccupations de la personne humaine. Alors, les données de la dernière édition des enquêtes d'Afrobarometer ainsi que les tendances observées au fil du temps confirment que la plupart des citoyens africains ordinaires demeurent inflexibles quant à leur désir de démocratie et de respect des normes et institutions démocratiques fondamentales. Encore faut-il que les dirigeants comprennent cela.
La régression démocratique en Afrique, Père, il y a un impact aussi sur la population.
Bien sûr qu'il y a un impact profond. D'un côté, il y a une perte de confiance dans les processus électoraux, parce que face à tout ce qui se passe depuis plus de deux décennies, beaucoup d'Africains pensent que les élections ne servent plus à rien. Mais de l'autre côté, les jeunes qui représentent une majorité de la population africaine se sentent exclus de la vie politique. On observe aussi un exode vers l'étranger et une montée du désespoir. Dans certains cas, cela pousse certains jeunes à rejoindre des groupes armés ou à risquer leur vie dans des migrations clandestines. Et cela est bien regrettable. Il faut que les dirigeants africains comprennent que les jeunes africains n'ont d'autres continents qu'est l'Afrique et qui doivent rester ici pour participer au développement de ces continents.
Que peut-on nous faire concrètement, Père, pour freiner le déclin de la démocratie en Afrique?
Freiner le déclin de la démocratie en Afrique est un défi complexe, mais il est possible de progresser grâce à une combinaison d'actions coordonnées au niveau local, national, continental et même international, notamment en renforçant les institutions démocratiques, en favorisant l'éducation civique, en luttant contre la corruption, en encourageant la participation citoyenne, mais aussi en prévenant, même par la force militaire régionale, les coups d'État et les révisions anticonstitutionnelles, mais aussi en soutenant les transitions démocratiques. Et une autre possibilité serait de répondre aux besoins socio-économiques des populations, promouvoir une responsabilité verticale en renforçant les défenses de protection des acteurs non étatiques, de la société civile et des médias. Enfin, puisque il ne peut y avoir de démocratie sans démocrates, je crois qu'il faut aujourd'hui en Afrique renforcer les investissements en faveur de la création et de l'entretien de la citoyenneté démocratique. Cela doit inclure le renforcement des modules liés aux devoirs et à la culture civique dans les programmes scolaires élémentaires, ainsi que de l'éducation civique au niveau national.
En direct, pour vous parler du recul démocratique en Afrique, avec le professeur Makaire Manimba. Père, à l'échelle du continent, que peut faire l'Union africaine?
L'Union africaine, c'est canard boiteux, a un rôle central à jouer, mais elle manque parfois de fermeté. Parce qu'en fait, certains Africains pensent que cette Union africaine est un conglomérat de dictateurs qui veulent pas perdre le pouvoir. Pourtant, l'Union africaine doit renforcer ses mécanismes de prévention des crises, sanctionner les violations démocratiques et appuyer le processus électoral. Elle devrait aussi, à mon avis, donner plus de place à la société civile dans ses prises de décision. Il faut seulement regretter le fait que l'Union africaine manque, j'insiste là-dessus, manque cette fermeté, manque cette volonté de mettre de l'ordre en Afrique. Souvent, elle condamne les coups d'État militaires, mais reste passive et silencieuse face au coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire face au président qui change la constitution pour s'éterniser au pouvoir. La communauté internationale, elle, est souvent aussi accusée de fermer les yeux pour des raisons économiques ou géostratégiques. C'est ça la difficulté. Mais je crois que les Africains doivent pousser l'Union africaine pour qu'elle devienne plus responsable, pour qu'elle aide les continents à construire cette démocratie, parce que nous pensons que c'est le meilleur cadre pour un développement économique, culturel, assumé au niveau de l'Afrique.
Vous avez parlé de la communauté internationale et je pose aussi la question, la même question d'ailleurs, que peut faire la communauté internationale face à ces reculs démocratiques?
La communauté internationale peut jouer un rôle crucial à condition d'agir avec cohérence et sans double standard. Il faut soutenir la transition démocratique. Ça, c'est important. Quand un peuple se bat pour sauver la démocratie, il faut alors que la communauté internationale intervienne. Il faut qu'elle condamne fermement les régimes issus des coups d'État, de tripatouillage constitutionnel, et qu'elle accompagne le pays dans la construction d'institutions solides. L'aide au développement, par exemple, doit être conditionnée au respect des droits humains et à la transparence dans la gestion, bien évidemment.
Il y a une question qui taraude mon esprit. Les institutions africaines sont-elles faibles pour défendre la démocratie libérale?
Tout à fait, elles sont faibles. Mais de quelles institutions il s'agit? Nous, on pense particulièrement à l'Union africaine, mais on peut aussi penser à toutes ces organisations régionales au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs. Mais on voit que toutes ces institutions, en réalité, c'est des machins, c'est des trucs qui tournent à vide et qui n'ont jamais de solution à chaque fois qu'un pays se retrouve empêtré dans les désordres provoqués par des dictateurs, par de présidents voulant se maintenir au pouvoir.
Mais quel rôle jouent aussi nos anciennes puissances coloniales, d'ailleurs, à ce qui concerne cette régression démocratique?
Mais les puissances coloniales, généralement, sont réservées, hein, parce que elles évitent toujours d'intervenir à visage découvert. C'est pourquoi je pense que on devrait collaborer avec ces puissances, et ces puissances devraient, parce qu'elles connaissent mieux leur réalité de leurs anciennes colonies, et elles devraient aider justement à construire la démocratie, à soutenir les transitions démocratiques. Et lorsqu'il faut condamner un président dictateur, un président qui marche sur les droits humains, et que ces puissances, ces anciennes puissances coloniales ne ferment pas les yeux, qu'elles ne gardent pas silence.
Nous avançons vers la fin, mais est-ce que la puissance grandissante de la Russie ou la Chine a aussi un impact sur les régimes politiques africains?
Bien évidemment, la Russie, la Chine, aujourd'hui en Afrique, je crois que c'est des puissances qui fascinent les Africains. Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux tous les commentaires de jeunes Africains par rapport à la Russie ou encore à la Chine, alors je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de faire appel à une nouvelle colonisation du continent? Hein, c'est ce que je suis en train de voir. Mais il faut aussi dire que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, en fait, je voulais parler de ce qu'on appelle BRICS. Voilà, le BRICS a une influence considérable aujourd'hui dans l'évolution, mais aussi dans la recherche d'un nouvel ordre politique mondial. Parce que, de plus en plus, les Africains comprennent que les Occidentaux n'ont pas aidé les continents et que peut-être il faut compter sur la Russie, la Chine, ainsi de suite. Mais à mon avis, les Africains devraient compter sur eux-mêmes. et que l'aide de la Russie, de la Chine, ou même des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, que cette aide-là ne conditionne pas les Africains. Parce que les Africains ont tendance à se présenter comme des parents pauvres, comme des gens qui doivent rester silencieux face à ces puissances extérieures. Mais non, l'Afrique nous appartient, c'est à nous de la construire.
Quelque part dans votre exposé, vous avez parlé de la population et je pose cette question. Qu'est-ce qui justifie les soutiens de la population au régime autoritaire plutôt qu'au régime démocratique?
Alors, je ne sais pas si les populations africaines se plaisent dans des régimes autoritaires. Je ne pense pas. Je crois que aujourd'hui, les Africains aspirent à plus de liberté, à plus de démocratie, à plus de développement socio-économique et culturel. C'est ça. Or, tous ces régimes autoritaires depuis la décennie 60 jusqu'à fin 90, ces régimes n'ont pas apporté la paix. Ces régimes n'ont fait que créer la tension au sein des pays et tout le monde comprend aujourd'hui que il faut qu'il y ait un jeu démocratique, un jeu de mandat, et que si tout le monde respecte cela, l'Afrique pourra se construire, l'Afrique pourra devenir ce continent qui fera parler qui fera parler son peuple, sa jeunesse, ainsi de suite. Et donc je crois vraiment aujourd'hui que nous Africains, nous devons batailler fort, nous devons obliger nos dirigeants pour que ils acceptent le jeu démocratique. Le fanatisme, souvent, c'est ça qui nous bloque, parce que le fanatisme nous mène vers ce qu'on appelle les cultes de la personnalité. Du coup, deux individus, même s'ils sont clairvoyants, même s'ils sont forts politiquement, pensent qu'ils sont devenus des messies, ils sont devenus des sauveurs, alors qu'en réalité, l'histoire nous montre clairement que tous ceux qui ont prétendu jouer au Messie, finalement, n'ont pas aidé leur pays à se développer.
Pour terminer, êtes-vous optimiste pour l'avenir démocratique de l'Afrique?
Oui, malgré tout. L'Afrique est jeune et sa jeunesse est de plus en plus consciente et engagée. Il y a une soif de justice, de liberté, de changement. Avec le bon accompagnement des institutions fortes et une volonté politique sincère, la démocratie peut non seulement renaître, mais s'enraciner durablement sur le continent. J'y crois.
Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot, Père, avant de conclure.
La démocratie en Afrique, voyez-vous, ne pourra être sauvée ni imposée de l'extérieur, ni seulement par des institutions politiques africaines souvent corrompues. La démocratie doit être revendiquée, cultivée et défendue par les citoyens africains eux-mêmes, avec bien sûr le soutien d'élites politiques responsables et de partenaires engagés. Le chemin est long, mais pas impossible. Moi, je crois vraiment que la démocratie, c'est la voie vers plus de liberté, vers plus de bien-être. C'est ce à quoi tous nous aspirons.
Voilà, le chemin est long, mais ce n'est pas impossible. C'est par là que nous terminons, nous bouclons cette émission Histoire de ce soir. Merci à vous, merci de votre attention. Nous sommes là chaque samedi à 20h40 ou 21h.
pour vous parler de l'histoire. C'était un sujet très intéressant pour nous de partager avec vous la régression démocratique en Afrique ou recul démocratique en Afrique. Cette émission à retrouver sur notre site web le www.radiomaria.cd. Là, vous allez télécharger gratuitement comme les désirs d'avoir un pays ou une démocratie qui va rester, un pays démocratique ou un continent démocratique. Prenez le temps d'écouter cette émission, vous qui avez raté, ou partagez avec les autres cette émission sur la démocratie. C'est terminé, c'était le père Makaire Maniba qui était de l'autre côté comme les permanents de l'émission Histoire, suis arrivé, et Bob Kilongo l'a accompagné. On vous fixe rendez-vous très prochainement, restez nos fidèles, surtout à l'écoute de la fréquence maternelle. Au revoir. I'm going to go to the next one.